Radio Libre, la radio qui fait la différence.
Bonsoir chers auditeurs, bienvenue pour ce live, cette émission en direct du mercredi 5 mars avec aujourd'hui un invité de marque et d'altitude aussi, Pascal Borel. Bonsoir Pascal.
Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir sur votre plateau.
Bonsoir Pascal.
Bonsoir Amaël.
Merci d'être venu. Amaël qui est là, qui est présente et aujourd'hui la technologie, la technique marche, c'est magnifique. On se réjouit.
Bonsoir tout le monde aussi.
On y est arrivé et on a, nous, notre Pascal local interne.
Oui, tout à fait. Bonsoir à tous et à toutes.
Merci à tous d'être là. On va passer une soirée fort intéressante. Je pense que l'heure donc, qu'on va passer ensemble, donc il y a l'émission publique qui dure de 19h à 20h, eh ben, elle va être très courte parce qu'on a beaucoup de choses à aborder et des anecdotes passionnantes à raconter aux auditeurs. On va passer aussi peut-être la petite page de pub, c'est qu'à la fin de l'émission, de 20h à 20h30, on a une soirée privée avec l'invité. Hein. On a des gens qui ont un petit abonnement, c'est pour remercier nos donateurs aussi. Et chaque semaine, on peut aussi acheter un petit ticket pour accéder à cette partie privée. On a changé un peu le concept maintenant, on va le dire lors des émissions en live, on va donner le lien pour les auditeurs qui vont nous suivre jusqu'au bout, donc restez à l'écoute de l'émission. Donc, Pascal Borel, tu es une personnalité qui a percé sur YouTube durant la crise Covid. Hein, tu as une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues. Hein, donc,
oui, c'est juste, oui.
Voilà, de nous trois, ouais. Je pense que tu es le plus connu ou le plus, comme le loup blanc hein, d'ailleurs. Pour les auditeurs qui ne peuvent pas te voir, donc actuellement tu as une grande barbe qui va très bien avec l'endroit où tu vis, hein, dans les montagnes valaisannes.
À 1600 mètres d'altitude, c'est juste.
À 1600 mètres d'altitude, et tu fais le sage aussi, vu que tu as mis sur papier un peu les enseignements que t'ont apporté la vie, les conclusions auxquelles tu es arrivé, et puis tu donnes aussi des recettes pour les gens. Donc le livre s'appelle 2024. On va donner aussi ton site internet et tout ça. On va aborder des thèmes comme la santé, les finances, la démocratie, beaucoup de thèmes. Je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que tu nous proposes peut-être une introduction Amaël et une question ou une...
Oui, moi j'ai une question parce que je ne suis peut-être pas la seule à ne pas te suivre depuis 2020. Je suis allée voir une vidéo de toi ce matin, suis beaucoup documentée et puis c'était juste incroyable d'avoir l'impression d'avoir un grimpeur prof de ski qui m'expliquait la vie, l'actualité, qu'est-ce qui se passe. Effectivement, tu es là avec ta grande barbe, on dirait un sage. Et puis une toute petite présentation, peut-être juste de ton parcours et de qui tu es.
Voilà. Ben écoutez, d'abord, je vous remercie encore une fois de m'accueillir sur le plateau de Radio Liberté. Et je suis donc un typique Suisse, à savoir que je suis un mélange d'Italien, de Polonais, de Français, d'Allemand. J'ai un passeport suisse, j'ai fait mon armée dans ce pays et j'ai toujours travaillé, bien sûr, depuis la Suisse, mais j'ai travaillé dans la partie anglo-saxonne de la planète beaucoup, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, j'ai exercé à Paris, j'ai travaillé au Luxembourg, en Belgique, à Boston, j'ai travaillé en partie aussi au Japon. Donc voilà, mon parcours, il est essentiellement financier. C'est pas forcément la partie dont je suis le plus fier aujourd'hui, mais c'est un état de fait. Donc ça veut dire que j'ai été l'arbitre de la bonne et de la mauvaise performance de tous les gestionnaires de fonds de la planète. Et j'étais cofondateur de donc Standard & Poor's, S&P, Micropal, qui mesure la performance de tous les gestionnaires de fonds. Et c'est moi qui distribuais en fin d'année ou en début d'année, on va dire, les récompenses pour les meilleurs gestionnaires de Suisse, en actions internationales, en obligations, en produits structurés et autres. Bref, donc ça, c'est l'essentiel de ma carrière. Mais au départ, je suis un pur menuisier charpentier parce que j'ai quitté la maison aux alentours de 16 ans. J'ai été sur les chantiers. Je voulais m'acheter des chaussures de montagne, des crampons, des cordes, des baudriers parce que mon truc, ça a toujours été de faire de la montagne. Ma mère, en seconde noce, a épousé un guide de montagne valaisan, donc il m'a sérieusement stimulé pour faire ça. Donc j'ai fait 7 fois la patrouille des glaciers, 10 fois Verbier-Grimens en VTT, j'ai fait beaucoup des grandes faces nord de nos Alpes, et ça c'est déjà une partie de ma vie, dont je suis un tout petit peu plus fier. Et il y a quelques jours, mon fils me dit « Écoute papa, on n'a pas fait la patrouille des glaciers ensemble, il faut impérativement qu'on fasse une fois. » Je lui ai dit « Non, j'ai plus envie de faire ce genre de choses, allons faire un beau sommet, une course d'arête. » Mais il m'a fallu environ 15-30 secondes pour me dire que si mon fils me demande une chose comme ça, je ne saurais le lui refuser.
Je trouve ça juste extraordinaire, Pascal, parce qu'à la fois ton parcours t'a mené à la terre, à la nature, à la montagne, aux choses palpables et réelles, ce qui te permet de faire des analyses dans ce sens-là, et à la fois tout ce parcours financier qui est plus dans des sphères nébuleuses et très compliquées et qui n'a rien à voir avec la nature, te permet de faire des analyses extrêmement pointues dans ces domaines-là.
Amaël, si je peux me permettre, depuis les Médicis, à savoir les banquiers vénitiens, on n'a à peu près rien inventé. La finance était exactement la même que ce qu'elle était à l'époque, avec des moyens de communication plus rapides, avec des instruments statistiques un peu plus rapides, mais tous les fondamentaux sont là depuis plusieurs siècles. Donc, je me permets de le dire. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose, à mon sens, qui est assez abordable. Et il suffit de poser son esprit dessus pendant quelques mois, voire une année ou deux, pour en comprendre des mécanismes fins. C'est ce qu'on a fait. Et on a développé des outils, en fait, d'aide à la gestion que j'ai vendu à plus de 120 banques ici en Suisse, à des centaines de banques en Angleterre, en France, au Luxembourg, en Belgique, mais bien sûr aussi aux États-Unis, au Japon, etc. Donc c'est une partie de la vie, mais c'est finalement ce parcours qui me permet de me désengager aujourd'hui, j'allais presque dire aussi de mes possessions, parce que bien entendu, quand on travaille dans la finance, les paysans qui travaillent la terre ont de la terre, les financiers qui travaillent de la finance ont de l'argent. Et moi, j'ai jamais voulu gagner d'argent, mais ça a été une conséquence du travail et du domaine dans lequel j'ai travaillé. Donc, ça veut dire que j'ai construit un des plus gros chalets ici à Verbier, que la famille royale d'Angleterre a voulu me racheter. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que toutes les vidéos sont là déjà et elles ont été en partie censurées. Je m'en voudrais de faire censurer notre entretien d'aujourd'hui. Donc, on va rester discret. Mais j'ai fait ça, mais je me suis débarrassé d'absolument tout. Parce que un proverbe te dit que tu ne devrais jamais combattre un ennemi qui n'a rien à perdre, car tu es déjà vaincu. Et je me suis mis dans une situation où maintenant je ne suis plus l'esclave de mes possessions. Je me suis débarrassé de tout ce que je pouvais me débarrasser pour, en fait, me mettre à disposition des démocraties, ou plutôt de ce qu'il en reste, des ruines des démocraties. J'appellerais plutôt cela des systèmes de gouvernance. Et je me suis littéralement isolé, pas en ermite, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses, ma famille et moi, ces dernières années, mais pour écrire le livre 2024. Qui te donne une feuille de route quant à la marche à suivre pour redonner leur force à nos démocraties, en redonnant leur fierté du service public à nos politiciens. Aujourd'hui, on dit que aucun leader ne peut être heureux si son peuple ne l'est pas. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, Stamer ou autres, pensent réellement rendre leur peuple heureux? Ah ben non, il y a Vladimir Poutine qui a un taux d'acceptation et d'opinion positive qui est au-delà de 70% dans son pays. Alors lui, peut-être qu'il peut dire qu'il rend son peuple heureux, mais nous, en démocratie occidentale, mon Dieu, on est complètement largué.
Et Trump, c'est un peu tôt pour dire?
Alors Trump, vous savez, dans la vie, moi je dis toujours, les gens sont simples. Ils font ce pour quoi ils sont payés, ils font ce qu'ils savent faire. Notre ami Trump, c'est un monsieur qui a travaillé dans l'immobilier toute sa vie. Donc, même dans ses propositions d'arrêter la guerre à Gaza, il pense à une promotion immobilière. Donc, finalement, il propose ce qu'il sait faire. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vraiment, c'est une pensée latérale. C'est-à-dire que, bien sûr, la plupart d'entre nous rigolent quand on entend une chose pareille. On veut tous la fin de la guerre. Dans mon livre, je ne me fais l'avocat que de la paix. Et la force de l'homme réellement fort est la non-violence, tout le monde l'a bien compris. Mais alors Trump, ce qui est intéressant avec Trump aujourd'hui, c'est qu'il propose un principe de tiers regard qui est dû à tous les citoyens. C'est-à-dire que le tiers regard, c'est ce qui permet à celui qui a un rôle stratégique dans une société de se valoriser parce que tout le monde peut voir s'il a été honnête, s'il a servi sa communauté ou si, au contraire, il a servi des intérêts financiers ou autres intérêts politiques. Et comme il est très difficile de vivre dans le mépris de ses voisins, eh bien, on veut tous se valoriser par quelque chose qu'on a fait de bien. Et il est vrai que les gens qui dissimulent leur action, que ce soit au niveau gouvernemental ou ailleurs, par définition, sont des, on va pas les traiter d'escrocs ici, mais sont des gens, la dissimulation est le plus grand, l'impunité, je devrais même dire, est le plus grand encouragement au crime. Les gens qui dissimulent les paiements de USAID, par exemple, pour ne citer qu'eux, par définition, ce sont les gens qui en ont profité. Et comme dit n'importe quelle personne qui mène une enquête, « follow the money », suis l'argent. Et 90%, tu trouveras le coupable. Donc, notre ami Trump, aujourd'hui, il redonne un principe de tiers regard à l'ensemble des populations en disant « Non, mais on va déclassifier tous les documents concernant JFK, tous les documents concernant l'affaire Epstein. Nous allons donner au peuple un accès direct qui lui permettra de proposer un jugement direct, qui le remettra dans son rôle de souverain. » Parce que je rappelle quand même qu'on est tous à se gargariser à la démocratie. Démocratie, démos, kratos, démos, le peuple, kratos, décide. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des démocraties, puisqu'on élit des gens dans une démocratie représentative, mais le moment où tu mets ton bulletin dans l'urne, c'est le moment où tu décides que tu ne décideras plus jamais rien, car tu donnes ce pouvoir à ton représentant. Et s'il y a un principe de tiers regard, est-ce que fait ton représentant est visible du peuple, évidemment qu'il va se comporter correctement. Si au contraire, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou de la santé, il a la possibilité de détourner ne serait-ce que 50% de ce que paye le contribuable, il est bien évidemment qu'il veut de la dissimulation, il veut l'omerta. Et si le peuple n'a pas accès à la transparence, donc au principe de tiers regard, c'est que par définition, il y a anguille sous roche. Donc, c'est le seul moyen de remettre le peuple aux commandes, c'est de donner pleine transparence à chaque action dans le domaine légal, bien entendu. Je prends l'exemple du domaine légal pour une raison qui est très simple. C'est que c'est le citoyen par ses impôts qui paye pour le cadre juridique, et dès lors, tout ce qui est produit par le cadre juridique appartient à celui qui le paye. Quand tu t'achètes une voiture, tu peux regarder à l'intérieur, tu peux l'utiliser, ça t'appartient. Quand tu payes pour le cadre légal, quand tu payes pour le cadre gouvernemental, c'est un outil qui appartient au peuple, qui t'appartient à toi en tant que citoyen. Donc, ça veut dire que toute décision légale, 4 jours après un verdict, après un rendu, eh bien, toute l'information, absolument toutes les pièces doivent être à disposition du public. Et c'est la seule façon de responsabiliser les juges. Parce que le niveau de corruption, même au niveau des juges aujourd'hui, il est juste absolument monstrueux. Et on le voit avec l'exemple de Pam Bondi, qui est donc la nouvelle General Attorney, donc l'instance suprême de la justice américaine, elle n'arrive pas à faire en sorte que les juges soient de son côté. Et même quand elle s'adresse aux forces du FBI, qui est pourtant géré maintenant par Kash Patel, qui est un monsieur qui est du bon côté de la barrière, qui est du côté du peuple, ça fait quasiment aucun doute, il n'arrive pas à sortir les documents. Et Pamela Bondi, une femme extraordinaire. Il faut l'écouter en anglais, dans ses speeches, dans son engagement personnel à remettre la justice non pas au service d'intérêts financiers, de politiques qu'il utilise comme une arme contre d'autres clans politiques, mais de remettre le DOJ, le Department of Justice, la justice, au service des citoyens. Et mon Dieu, comme on en a besoin. Et attendez, on a en plus à la tête des services d'intelligence américains une femme comme Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, moi je l'ai découverte quand elle était encore dans le clan des démocrates. Et c'était il y a 5-6 ans. Je l'ai vue 10 minutes parler. J'étais amoureux. Mais tant elle a de prestance, mais tant elle est extraordinaire. Ce sont des femmes, mais qui sont juste un étage au-dessus, quoi. C'est merveilleux. Eh bien, malgré cela, malgré la volonté de Elon Musk de redonner ce principe de tiers regard au peuple, aujourd'hui, les top instances se font mettre des bâtons dans les roues parce que les gens, entre guillemets, malhonnêtes, se sont tellement gavés sur l'opacité de nos démocraties que si tout est mis en lumière, les gens voudront réparation et ils voudront vengeance. Or, l'heure n'est pas à la vengeance, l'heure n'est pas à la punition, l'heure est à la collaboration pour permettre à chaque être humain d'apporter sa contribution à l'édifice social, à l'édifice communautaire. Nous sommes des communautés. Et c'est ça qu'il est indispensable de mettre en place. C'est ce que je décris dans le livre 2024. On veut être construit pour ce qu'on construit, connu, pour ce que l'on construit. On veut pas être connu pour ce que l'on détruit. Non. Il est facile de livrer bataille dans la violence et de gagner un combat dans la violence. Mais n'importe quel imbécile peut le faire de cette façon. Mais la seule personne qui gagne une guerre est celle qui organise la paix. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça exige une discipline personnelle totale. Ça exige d'être libéré de l'esclavagisme dans lequel nous vivons tous, de par ne serait-ce que l'accumulation de biens et notre attitude consumériste. Voilà.
Merci Pascal. Dans ton livre, tu parles pas beaucoup des États-Unis, mais tu parles aussi de la Suisse, parce que les problèmes qu'on voit apparaître aux États-Unis, en fait, sont aussi ici. Je me permets de citer un petit extrait de ton livre.
Avec grand plaisir.
Où tu dis, en Suisse, pour un médecin en exercice, il y a 5 à 7 administratifs qui remplissent de la paperasse. Ils sont dûment payés et ils multiplient le coût de la médecine par 3.
Oui.
Aujourd'hui, la médecine enrichit les firmes pharmaceutiques, les financiers, les États et les compagnies d'assurance. Elle rapporte à tous, sauf aux médecins et encore moins aux patients, tous deux otages du système mis en place.
Alors, on est dans le monde des process. Et on enseigne des processus à nos jeunes têtes blondes ainsi qu'aux étudiants. Mais le problème va plus loin. Parce que si je prends ne serait-ce que l'exemple du Covid, assez récent quand même, il est évident que des milliers de médecins à travers la planète avaient des protocoles antiviraux qui étaient beaucoup plus efficaces que n'importe quel vaccin de Pfizer ou autre firme pharmaceutique. C'est une évidence. Mais on les a muselés littéralement. On les a menacés de perdre leur droit d'exercer, d'être radiés de l'ordre des médecins s'ils n'appliquaient pas les traitements que préconisait l'industrie pharmaceutique ayant fait son lobbying auprès des politiques, clairement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça n'est mu que par des intérêts financiers. Et on peut prendre l'exemple du Covid, des vaccins, mais il y a pire, parce que si je me permets de prendre l'exemple du cancer, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cancer. Or, on sait tous aujourd'hui qu'un cancer n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie métabolique. Ou plutôt, tu peux l'appeler maladie génétique, mais c'est un problème de génétique de tes mitochondries. C'est un problème qui est mitochondrial. Et la plupart des professeurs d'oncologie le savent parfaitement bien. Mais on préfère te vendre des immunosuppresseurs, on préfère te vendre des chimiothérapies, on préfère te vendre les soins qui rapportent. C'est une monstruosité. Et tout ça parce que, justement, les médecins se sont fait voler leur profession, ce ne sont plus les médecins qui décident des traitements appliqués. Je prendrai l'exemple du groupe mutuel qui est à Martigny, pas très loin de moi, et qui est la plus grande assurance de santé obligatoire, je crois, aujourd'hui en Suisse. Je les connais bien. Ils sont à un point où ils imposent des médicaments parce qu'ils touchent leur commission. Alors, bien sûr, on va peut-être être traîné en diffamation parce qu'on est simplement en train de dire que ils imposent des médicaments plutôt que d'autres. Et c'est uniquement pour des raisons financières. Ce ne sont pas des médicaments qui vont traiter le patient mieux que d'autres. On est victime de cela. Et pourquoi? Parce que nous avons mis un intermédiaire financier que sont soit l'État ou les sociétés d'assurance obligatoire entre le patient et son médecin. Et dès qu'un intermédiaire financier contrôle les flux financiers entre deux parties prenantes, ben, c'est lui qui contrôle la manœuvre, hein, qui paye commande, comme on dit. Donc, à partir du moment où tu mets un obstacle entre une relation, dans la relation directe que devrait avoir le patient et son médecin, eh ben, tu crées les pires obscénités. Au départ, la mutualisation était bien sûr quelque chose qui partait d'une bonne intention. On s'est tous bien compris, il y a des gens qui sont moins fortunés que d'autres, etc. Mais le problème, c'est que dès que tu centralises les flux financiers d'un budget aussi monstrueux que la santé à une échelle nationale, à l'échelle d'un pays, eh bien évidemment que tu as des intermédiaires qui se mettent au milieu et qui vont prendre leur micro-commission. Ou plutôt, tu auras aussi l'industrie pharmaceutique qui va imposer un médicament. Tu auras des intérêts des assureurs qui vont dire, tu retires la capacité que le médecin a de s'occuper de son patient. On doit revenir à une épargne solidaire, individuelle, obligatoire, qui reste la possession du citoyen en tout temps, et qui lui permet de payer en direct les soins médicaux qu'il juge nécessaires, que son médecin lui propose. On redonne sa pleine liberté au médecin. Le médecin redevient un homme qui peut prêter le serment d'Hippocrate, tout simplement. Parce que aujourd'hui, le médecin qui prête le serment, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a éliminé le serment d'Hippocrate, parce que sinon, dès la première semaine d'exercice du métier, les médecins sont parjures, ou à peu près. Et comme pour la plupart du temps, la plupart d'entre eux, les médecins sont de bonnes personnes, on ne choisit pas de faire médecine pour gagner de l'argent. On choisit de faire médecine parce qu'on veut aider son prochain, parce qu'on est sensible au fait que des gens perdent leur bien le plus précieux, à savoir la santé. Et le médecin va être instrumental, va être instrumental dans la reprise de possession de la santé. Donc, ce que je dis, c'est qu'on doit rétablir un lien direct, diminuer les impôts en conséquence, et c'est ce que je te propose dans 2024. Parce que finalement, le moteur est toujours le même. C'est un moteur financier. Les flux financiers règlent, j'allais presque dire, notre relation entre le citoyen, le peuple et l'État. On doit remettre une harmonie dans ces flux financiers dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la retraite. Mais centraliser ces flux financiers dans les mains d'un tout petit nombre, mais pour eux, c'est la poule aux œufs d'or. C'est comme de centraliser la capacité de création de monnaie dans une banque centrale. Évidemment que c'est anticonstitutionnel, mais les gens qui ont ce pouvoir, ils vont jamais vous le redonner, à part si c'est imposé par le peuple. Mais peut-être que je suis un peu en avance sur ce dont tu as envie de parler, Charlie, Amaël.
Venons-en, par exemple, pour cet exemple-là, quelle action concrète tu proposerais?
Alors, ça passera de toute façon par une recréation des bases constitutionnelles, pour une raison qui est toute simple. C'est que la Constitution est véritablement la poutre faîtière de l'édifice gouvernemental, de l'édifice de gouvernance de nos nations, de nos sociétés. Et je te rappelle qu'une Constitution sert à protéger le peuple de son gouvernement. lui donner les outils légaux et constitutionnels qui lui permettent d'exercer sa souveraineté. Donc, il est indispensable de recréer des constitutions, non pas par des juristes spécialistes du droit et autres polytechniciens ou tout ce que tu veux, non. Une constitution doit être écrite par des tirés au sort pour avoir une réelle représentativité du peuple, pour avoir autant d'hommes que de femmes, autant de riches que de pauvres, de laïcs que de croyants, de etc., etc. Je peux continuer comme ça 10 minutes. Mais si tu veux une représentativité du peuple, tu dois tirer au sort entre 101 et 1001 citoyens dépendant de la taille de la nation, les asseoir à huis clos pendant 24 heures, relire, s'ils le souhaitent comme base, les articles constitutionnels que j'ai écrits en chapitre 11 de 2024, du livre 2024, et puis discuter des valeurs. Je rappelle que au-delà d'une constitution, au-delà de protéger les citoyens de leur gouvernement, c'est une volonté de vivre ensemble. C'est la capacité collaborative de l'espèce humaine qui est mise sous forme d'article dans une constitution et qui va être l'apôtre festière de la nation. Donc, il faut imposer une épargne solidaire individuelle obligatoire dans le domaine de l'éducation de tes enfants, dans le domaine de ta santé et dans le domaine, bien sûr, de la retraite. Un pourcentage de ces trois comptes d'épargne, en fait, qui restent en ton nom à tout moment, peut être utilisé comme assurance perte de gain, perte de travail, pardon, ou plutôt assurance chômage, comme on l'appelle. Et tant que Donc, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il faut définir, pas de façon constitutionnelle, quel est le pourcentage de la valeur de tout, quel est le pourcentage que l'État peut extraire de la valeur produite par tous les acteurs économiques de la nation. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, l'État a un mandat. L'État ne peut pas adapter son budget à ses dépenses. Il adapte ses dépenses à son budget. Et son budget, c'est 17% de ce que produisent tous les acteurs économiques de la nation. Il n'y a plus jamais d'autres impôts, aucun impôt indirect, pour faire en sorte que tous les citoyens aient accès aux produits qu'ils consomment, à leur valeur directe, immédiate. Et c'est les citoyens qui, sur des comptes de consignation à leur nom, vont épargner dès leur premier salaire 9% pour l'éducation, 9% pour la santé, 5% pour la retraite. Donc, ça veut dire une chose très simple, c'est qu'on a 17% pour l'État et on a 9, 9 et 3 pour, comme épargne solidaire obligatoire de tous les citoyens.
Bon, est-ce qu'on fait confiance aux financiers maintenant ou pas?
Ah oui.
Ça, c'est la prochaine question. Moi, j'aimerais juste rebondir, Pascal, parce que tu parlais de l'importance de la volonté du vivre ensemble pour pouvoir recréer ces bases saines, constitutionnelles. Or, oui. En tout cas, en Europe, je le vois au Paraguay, c'est différent, mais en Europe, on est de plus en plus chacun pour soi, sa petite maison, sa petite voiture, son petit salaire. On a assez d'emmerdes pour soi tout seul, on va pas s'inquiéter des autres.
Exact. On est totalement divisé. Et on est totalement divisé parce que les politiques ont bien compris qu'ils divisaient pour mieux régner. À force d'abuser des démocraties, en particulier de l'accès illimité qu'ils se sont donné à ton argent, à la valeur de ton travail, ils savent une chose, c'est qu'il faut continuer à diviser pour être sûr que, si possible, les hommes, les femmes viennent à divorcer, ce qui signifie que tout le monde travaille. Ils veulent d'ailleurs, la plupart des couples aujourd'hui ne peuvent pas survivre sur le salaire d'un seul des conjoints. Non. Et tu dois diviser à tous les... C'est des vieilles stratégies, hein. Je crois que diviser pour mieux régner, ça date de Lao Tse, dans le livre de la guerre, me semble-t-il. C'est quand même à peu près 2500 ans avant le présent. Donc, les adages sont vieux comme le monde. Et c'est vrai qu'en Europe aujourd'hui, le citoyen est tellement humilié, il est tellement volé, on lui prend tellement de la valeur de son travail, hein, ne serait-ce que par l'inflation. Rappelle-toi, si tu avais 100 dollars de pouvoir d'achat en 1920, aujourd'hui, tu as 95 centimes en poche. Donc, on a divisé par 100 en un siècle la valeur de la monnaie. Et c'est l'impôt le plus injuste parce que ça frappe les épargnants, les gens qui ont mis 100 000 francs à la banque. Tu pourrais me dire que l'État, en un siècle, a volé 99,10% de la valeur de tes économies. Et d'un point de vue purement statistique, mathématique, il n'y a rien à dire à ça, c'est un fait. Et là, je ne t'ai même pas encore compté la TVA, l'impôt sur l'énergie. Est-ce que tu te rends compte que le pétrole à la pompe devrait coûter 25 centimes du litre et que tu le payes près de 2 francs? Mais où va l'argent? Ah ben, il est pris par les États. Il est pris parce que tu produis du CO2 et que le CO2 est le moteur du réchauffement climatique. Alors même que le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne du vivant. Il n'y a pas une molécule de ton corps, jusque dans tes acides aminés, tes acides nucléiques, qui n'ait pas un atome de carbone en position centrale. Ce qui veut dire, et ce carbone n'a qu'une seule source, le CO2, car c'est la photosynthèse des plantes qui capte le carbone pour le métabolisme, pour la biologie de la plante, et qui relâche l'oxygène en tant que produit de déchets. Et 99,99999% de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre est produit par la photosynthèse. Donc, accessoirement, ça nous est assez utile, hein, parce que depuis qu'on est sorti du ventre de maman, jusqu'à notre dernier souffle, on aura besoin, on peut pas s'en passer pendant plus d'une minute. Soyons quand même clairs. Donc, les gens viennent t'expliquer que le CO2 est un polluant. Encore une fois, tu vis dans un empire du mensonge. Le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie. Et il n'y a pas une molécule du vivant dans le règne des fongiques, dans le règne végétal ou dans le règne animal qui ne vienne du CO2. Bref, je te la fais courte, on est complètement divisé, totalement divisé, parce qu'on jette le doute. Je parle à ma nièce il y a quelque temps. Elle vient m'expliquer, moi qui ai étudié, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « L'Empire du mensonge » où je t'explique, je te donne tous les chiffres. Mais par A plus B, j'ai parlé à mes gars à Harvard, au MIT, j'ai parlé à des gens de Oxford, de Columbia, etc., etc. Ils me disent tous, ils me confirment tous les chiffres. J'en ai un de l'EPFL qui me dit, Pascal, ce qu'il y a de bien, genre, j'ai lu ton livre, j'ai lu tes articles et tout. Il me dit, tous tes chiffres sont corrects. C'est une rareté. J'en ai parlé dans une vidéo, je me suis permis. Et j'ai été un peu critiqué parce que, évidemment, vous savez, on dit, sois une bonne personne, mais ne perds pas ton temps à essayer de le prouver. Et je pense que c'est fondamental. Moi, les gens qui lisent mon livre, bon, ben, ils y trouveront une feuille de route, ils y trouveront un état des lieux, ils y trouveront les articles de constitution universelle qui concernent tous les êtres humains. Ils aiment pas. Mais en attendant, un enfant de 7 ans peut très bien et très facilement le comprendre. Donc, comment recréer l'union? Il faut recréer l'union.
Merci.
Ben, c'est ça. Et la seule façon de le faire, c'est de rendre les gens fiers de ce qu'ils font, leur rendre leur pouvoir d'achat, les convaincre qu'ils sont forts. L'être humain est le top prédateur de la planète. Et dans l'éducation obligatoire étatique actuelle, on veut te faire croire que tu es faible, que tu as besoin du gouvernement pour ta sécurité et puis besoin d'assurance pour t'assurer contre le vol, contre la main cassée que tu auras en faisant du ski, etc. Tu es un petit faible. Mais l'être humain n'est pas faible. L'être humain a conquis tous les environnements de la planète en moins de 400 000 ans. Il est passé du dernier des charognards dans le rift africain, au top prédateur qui domine tous les environnements. Et aujourd'hui, tu as des politiques, c'est la politique de la... c'est la stratégie de la mafia. Tu es fragile, tu es en danger, donne-moi ton argent, je vais te protéger. C'est la stratégie de la mafia. Donc, Non, l'être humain n'est pas fragile. L'être humain est fort, il est courageux, il est déterminé, il a conquis tous les environnements et tu dois arrêter de te faire laver le cerveau, hein, en pensant que tu es faible. Je te donne un exemple. Le jeûne. Moi, je pratique le jeûne depuis pas des décennies, oui, mais en tout cas une décennie et demie, on va dire, le jeûne intermittent. Et puis, je fais des jeûnes secs avec mon fils, avec ma fille, avec ma femme. Et jeûne sec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, tu ne manges pas, mais tu ne bois pas. Tu veux que ton jeûne s'exprime sans contrainte. Aucune contrainte. Donc, tu le prives de nourriture, mais tu le prives d'eau. Et puis, je vois plein de zouzous, là, des soi-disant, je suis désolé, mais spécialistes qui ont jamais pratiqué, qui ont étudié à l'université, puis qui viennent m'expliquer que si tu ne bois pas pendant 2 jours ou 3 jours, tu meurs. Ah ben moi, je devrais être mort des dizaines de fois, hein, sur la dernière décennie. Moi, je fais des jeûnes secs où je ne bois pas d'eau, rien du tout, pendant 7 jours. Et si tu crois que j'ai la bouche sèche à la fin du 6e jour, non ! L'être humain est super fort. Et quand tu fais un jeûne sec comme celui-là, tes cellules souches sont multipliées par 1000 au bout du 7e jour. Tes mécanismes, ton autophagie, toutes tes productions endocrines, en particulier les hormones de croissance. Quand tu n'as rien mangé pendant 20 heures ou 21 heures, tes hormones de croissance font pas plus 20, 30 ou 40%. Elles font plus 1800%. Quand l'hormone responsable de ta synthèse des protéines fait plus 1800%, d'après toi, il se passe quoi dans ton organisme? Il se porte moins bien ou est-ce qu'il se porte mieux? Donc, on te ment surtout pour te faire croire que tu es fragile, que tu ne pourras pas résoudre tes problèmes à l'interne, que ta famille n'en vaut pas la peine. J'explique 2-3 choses à ma nièce. Et puis, elle vient, et puis, de façon quand même un peu arrogante, il faut bien le dire. Elle me dit, ah non, mais tu as, tonton, tu as tort, blabli, blabla, etc., etc. Évidemment, elle peut se permettre. S'en fiche. Et puis là, j'ai eu une phrase un peu malheureuse. Je lui ai demandé si elle n'était pas complètement débile. Et j'aurais pas dû, parce que c'est agressif, ça n'est pas constructif, et je m'en veux beaucoup. Mais, en attendant, on te ment en permanence pour te voler la valeur de ton travail, te voler ton argent, pour se donner un accès illimité à ton argent. Et c'est ce que veut l'État, parce que c'est le moteur de la guerre, c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. Donc, il faut redonner son pouvoir d'achat aux gens. Et dans le modèle que je te propose, 60% de la valeur de ton travail est gardée pour le citoyen, pour son pouvoir d'achat direct et immédiat. On donne une vraie discipline aux États qui ne peuvent plus adapter leurs recettes à leurs dépenses, mais qui sont obligés d'adapter leurs dépenses à leurs recettes. Donc, ils doivent se défaire des 3/4 des agences gouvernementales qui occupent des dizaines de milliers de personnes qui sont des centres de coûts. Tous ces fonctionnaires, je les adore, c'est des gens très éduqués, ils savent lire, écrire, ils sont super instruits, mais aujourd'hui, ils sont des centres de coûts. Et tu dois, toi, en tant que citoyen, le peuple doit les remettre à disposition du marché du travail dans le secteur privé pour redevenir des centres de création de valeur, pour quelque part leur redonner leur vie, pour leur redonner un sens. Et si tu fais ça, si tu les revalorises, oui, il y aura une phase difficile, mais des êtres humains sont les champions de l'adaptation. En l'espace de 6 mois, ils auront trouvé quelque chose qui leur permettra de continuer à payer les traites de leur leasing, les hypothèques, les écoles des enfants, mettre une bonne nourriture 1 fois par jour sur la table plutôt que 3, ce qui est totalement, un total irrespect des outils biologiques. Mais enfin, bref. Et il faut expliquer ça aux gens. Encore une fois, c'est ce que je fais dans mon livre 2024, en termes, ben, comme j'essaye de le faire avec vous, Radio Liberté. J'essaie simplement de rendre accessible quelque chose sans me gargariser de mes connaissances. Je me fous de mes connaissances et de ce du voilà tout ça. Non, ce que je veux, c'est donner un outil que les gens puissent prendre avec eux à la maison maintenant, qu'il leur soit utile ce soir, demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans une année, qu'il soit utile à leur communauté. Et c'est pour ça, bon, oui, moi j'étais spécialiste alpin dans l'armée suisse. Donc évidemment, j'ai organisé les patrouilles des glaciers, je les ai faites, tout et tout, mais j'ai guidé des, peut-être pas des milliers, mais quand même beaucoup de gens sur des sommets. L'idée, c'est de donner une feuille de route. C'est de dire, prends ma corde, tu t'accroches, tu mets ton mosqueton, tu mets ça sur ton baudrier, je te fais le chemin, je te fais la voie jusqu'au sommet, et toi, regarde le paysage et enjoy. Et tu ne prendras aucun risque physique, tu ne prendras aucun risque légal, tu redonneras leur fierté de fonctionner à des politiques qui sont aujourd'hui privés de leur valorisation personnelle à travers ce qu'ils font pour le peuple. Est-ce que ça doit être dur? Est-ce que ça doit être difficile? Un président Emmanuel Macron aujourd'hui, mais il vit dans la honte au quotidien. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un de mauvais. Alors, bon, les gens qui aiment pas Macron, ils vont pas aimer ce que je dis, mais à la base, c'est quelqu'un de très instruit, il est très bien, j'en suis sûr, mais il n'a pas de projet. Il sort des grandes écoles qui ont formaté tous ces pauvres gens de la même façon. Ils n'ont pas l'originalité de penser. Ils arrivent au pouvoir. Oui, alors c'est super, on va entretenir l'outil qu'on reçoit une cuillère en argent dans la bouche. Mais attendez, on serait bien fou de changer quoi que ce soit puisqu'on n'a qu'à s'asseoir, mettre les genoux sous la table et se gaver. Donc, est-ce que vous pensez peut-être que la gauche, la droite, le centre, les écolos, quoi que ce soit, vont changer quoi que ce soit? La réponse est évidemment non. Non, ça ne peut pas venir des politiques. Demander aux politiques de changer nos systèmes de gouvernance aujourd'hui, c'est véritablement demander à la dinde d'aller préparer leur pas de Noël. Mais ça peut pas fonctionner. Les gars, ils s'assoient à la table laissée par les précédents. Leur pain est déjà servi. Ils ont qu'à se gaver. Non, tout viendra du peuple. C'est le peuple qui doit prendre conscience de la sauce à laquelle il est mangé. On l'a fragilisé, on interdit aux parents d'éduquer leurs enfants. Ils sont obligés de les envoyer à l'école obligatoire étatique avec des programmes qui sont faits non pas par des gens qui ont une vocation pour l'enseignement, mais par des gens qui perdront leur emploi s'ils ne se conforment pas au programme imposé par les politiques ou par le département pour la nationale de l'éducation, je sais pas quoi. Mais quand quelqu'un travaille pour l'État dans le département de l'éducation, mais s'il aime l'éducation, qu'il aille enseigner, mais qu'il arrête d'en discuter. C'est pas à lui de choisir les programmes. Comme je l'ai dit pour les médecins, la médecine aux médecins, l'éducation aux enseignants professionnels. Mon grand-père était professeur de latin grec. Si vous lui aviez dit, ne serait-ce qu'une fois, essayez de dicter le programme qu'il enseignait à ses étudiants, mais vous vous seriez fait crucifier. Hein? Parce qu'il était superbe, féru de littérature, latin grec, on s'est compris, hein, mais littérature, histoire, et il enseignait à ses étudiants d'une façon qui était merveilleuse. Mais c'était une pure vocation. Aujourd'hui, on a des mercenaires qui reçoivent un salaire à la fin du mois pour appliquer un programme qui est imposé. Et qui est le même pour tous, un one size fits all, hein, comme si la même taille d'habit pouvait habiller tous les êtres humains. Mais faut réfléchir. Non, ça peut pas fonctionner. Et notre système éducatif, il est total dysfonctionnel. Et encore une fois, quand les parents auront éliminé l'intermédiaire financier qu'est l'État ou Dieu sait quelle organisation, et qui vient s'infiltrer entre l'enfant et son professeur, et les parents, bien entendu. Mais quand on aura éliminé ça avec les parents, on aura rendu les impôts que payent les parents aux parents pour payer en direct l'institution qui éduque leurs enfants. Non seulement on aura de nouveau de la concurrence, donc ça veut dire que les écoles deviendront beaucoup plus concurrentielles. On impose un tiers regard au niveau des états financiers de tous les services qui ont un aspect social. Et ça inclut bien sûr l'éducation, la santé et la justice. Je l'ai entièrement décrit dans mon livre 2024. Eh bien, le jour où on fait ça et que l'éducation appartient de nouveau aux parents, mais we're in business, baby, c'est bon. C'est bon. Mais si vous aviez dit il y a un siècle à des parents qu'ils allaient devoir se séparer de leurs enfants à 8 heures du matin pour les récupérer à 5 heures l'après-midi et qu'ils allaient dans l'intervalle être éduqués par l'État, mais vous auriez été lynchés, vous auriez été des traîtres à votre famille, vous auriez été crucifiés, ça aurait jamais passé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on impose, c'est ce que on fait croire aux parents qu'ils sont trop stupides, ignorants pour éduquer leurs propres enfants. On te fait croire que tu es faible. C'est une obscénité. Personne n'est faible. L'être humain est super fort. Il a un cerveau qui est une des plus... C'est une merveille de la nature, le cerveau humain. Et il est capable de s'adapter à son environnement. Il s'adapte, il est le... Je te rappelle, quand tu es né, ton cerveau était pré-câblé, mais il était vide. Il t'a fallu une année pour vaguement te tenir debout, 3 ans pour courir ou 4 ans pour courir. Une antilope, elle naît, dans 1 heure elle marche, dans 2 heures elle court. Ah oui, mais bien sûr qu'il nous a fallu du temps pour créer cette coordination musculaire, pour nous adapter. Oui, mais ça nous permet de nous adapter à tout et n'importe quoi. Donc, c'est garbage in, garbage out. De la merde à l'entrée, de la merde à la sortie. Arrêtons de mettre de la merde dans le cerveau de nos jeunes têtes blondes. Je suis dur, hein. De temps en temps, mon vocabulaire dérape un peu. Mais quand le ciel est bleu, j'essaie pas de te faire croire qu'il pleut, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut redonner l'éducation aux professeurs, aux professionnels de l'enseignement. Il faut redonner la médecine aux médecins. Et la seule façon de le faire, c'est d'éliminer les intermédiaires financiers qui se gavent. Sur ton passage à l'exemple de ce que Elon Musk est en train de mettre en évidence aux USA. On estime aujourd'hui que c'est donc Robert Fitzgerald Kennedy Jr. qui a repris le domaine de la santé, le healthcare services, right? Le gars, il est en train de mettre en exergue, ils sont en train de faire un audit, des dizaines de millions de personnes mortes qui ont entre 100 et 210 ans, avec 3 millions de personnes. J'ai fait le compte, là, parce que j'ai eu les chiffres un peu plus tôt que quand ils ont été donnés. Mais on voit pas la caméra, pardon. Et donc, je me permets juste de noter. Aux États-Unis, d'après la Sécurité sociale actuelle, il y a 3 542 044 personnes qui ont entre 140 et 149 ans. Donc, alors que tout le monde sait que la Française Jeanne-Louise Calment a vécu jusqu'à 122 ans et 164 jours. L'homme le plus vieux, un Japonais, a vécu jusqu'à 116 ans et 54 jours, apparemment. C'est les chiffres que j'ai. Donc, mais attention, la sécurité sociale dissimule absolument tout et continue à payer plus de 20 millions de personnes qui sont mortes, qui ont entre 100 et 229 ans. Mais on croit rêver, où va l'argent? Donc, je dis simplement que dès que vous mettez un système dans l'éducation, dans la santé, qui centralise les flux financiers ou qui contrôle les flux financiers, vous êtes mort. Parce que vous ne pouvez pas empêcher des gens qui utilisent l'environnement dans lequel ils sont pour eux-mêmes. On est optimisé génétiquement pour tirer le meilleur parti de l'environnement dans lequel on est. Tu peux pas y échapper. Les premiers unicellulaires étaient comme ça. Les pluricellulaires le sont devenus et nous sommes, alors je vais pas dire l'apogée des espèces parce que ce serait nous lancer un bien grand compliment, mon Dieu. Mais en attendant, on est programmé pour tirer le meilleur parti de notre environnement et c'est normal que nous le fassions. Donc, il suffit de changer quelque peu l'environnement et je reviens à Maëlle, à ta question. Comment recréer les liens qui nous unissent plutôt que de laisser des gouvernements nous diviser de façon systématique? Et c'est ça qui est important, c'est au cœur de notre problématique. Et si on n'adresse pas la fondation, cette fondation, on n'a aucune chance de reconstruire un building solide que nous serons fiers de laisser à nos enfants ou aux générations futures et dans lequel ils pourront s'épanouir. Ça ne fonctionnera pas. On doit adresser les flux financiers. Et quand on aura adressé les flux financiers, l'harmonie des flux financiers entre le citoyen et le gouvernement, nous aurons solutionné 90% des problèmes. Un état de fait.
Magnifique, Pascal, tu es un invité parfait parce qu'on, comme une tondeuse à gazon automatique, on te lance et tu parles, c'est magnifique. Et j'ai quand même quelque chose que j'aimerais te demander, qui est peut-être un peu personnel, mais à quel moment tu as eu ce déclic justement, à quel moment tu es passé de la personne active dans le système financier professionnel à la personne que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire la personne qui dénonce et qui propose des solutions pour sortir de ce monde devenu trop protocolaire?
J'ai un de mes amis, mon ami John, belge d'origine, mais suisse, ponte, EPFL, etc., etc. Un jour, il revient d'un voyage en Inde, mais un sérieux voyage en Inde. Hein. Il y a passé du style, je me souviens plus, 4 mois, 6 mois. Il revient vêtu d'une peau d'yak, etc., etc. Et c'est un homme supérieurement intelligent. Et il me raconte la chose suivante. Il me dit, Pascal, il y a 3 phases dans la vie. La première phase, c'est l'enfance. Le monde est à toi, tu t'en sers, tu découvres, tout est nouveau, tu t'émerveilles de tout, tu es dans l'enchantement de la découverte de la vie. Et c'est vrai. La deuxième phase, c'est la phase adulte, dans laquelle tu dois accumuler des biens, tu dois te mettre un toit, un abri sur la tête, tu dois mettre du beurre et des épinards sur la table, tu dois éduquer tes enfants, tu dois avoir des biens, tu en es l'esclave, tu es l'esclave de tes biens, et même si tu veux faire autrement, non, tu n'auras pas le choix. C'est comme ça, c'est une phase imposée. La troisième phase de la vie, c'est la vieillesse ou la sagesse, où tu te défais de ton vivant, de tout est bien pour reconquérir ta liberté intellectuelle, une forme de liberté que tu as dans l'enfance, pour te remettre au service des jeunes générations, pour avoir un lien direct avec tes petits-enfants et leur communiquer ton expérience que tu es, mais pas ce que tu as, ce que tu es. Et c'est la différence entre être et avoir. Et nous sommes dans une société où avoir représente 90% de notre valorisation personnelle. C'est comme ça que tu es jugé. Eh bien, moi, tu vois, il m'a raconté cette histoire quand j'étais à fond. Je dirigeais des sociétés, je faisais des cotations en bourse, des capital gains pour échapper à l'impôt, etc., etc. Ah oui, j'étais un player actif. Hein, j'étais dans le game, il n'y a pas de doute là-dessus. Il me raconte ça, mais au fond de moi-même, j'ai tout de suite su que ce serait ma vie, que ça allait se passer comme ça. Et ça paraît dingue, mais je l'ai su. Merci, John. Et je sais, ça s'est passé, on était en montagne. J'ai même fait une fois la patrouille des glaciers avec lui. Donc, on a fait plein de sommets. C'est un mec absolument fabuleux. Je l'ai su. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en partie à l'insu de mon plein gré, comme le dirait Richard Virenque, c'est un peu le chemin qui m'a été imposé. Alors, bien sûr, c'est un choix. J'aurais pu l'éviter, c'est évident. Mais je me suis dit, voilà, c'est mon occasion de, après une vie, tu vois, extraordinaire, comme j'ai eu tellement de chance, j'ai pu faire plein de faces nord, j'ai voyagé comme une belle, j'ai vécu en Afrique. C'est dingue. Comment est-ce que je vais rendre ça? Et je me souviens très bien, un de mes amis journalistes à Paris m'appelle, puis me dit, Pascal, tu dois arrêter de te cacher dans tes montagnes suisses. Tes connaissances, c'est dingue. Ta capacité de faire les liens, c'est dingue. Mais partage ça, c'est ton devoir. Et j'ai un autre ami, toujours de l'EPFL, qui me dit, mais Pascal, tu fais les liens en tous ces domaines, parce que tu as travaillé dans le domaine financier, évidemment, tu as travaillé dans le domaine de la santé, indirectement, tu as travaillé dans le domaine politique, évidemment, tu as travaillé dans le domaine, etc., etc. J'étais président du conseil d'administration de société dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'investigation. Et je me suis dit, bon, Pascal, c'est une opportunité unique de redevenir ou de devenir la meilleure version de toi-même. Et d'offrir ça pour essayer de donner quelque chose aux êtres humains, de leur faire abandonner ce que j'appelle la complexionnite. Je cite Charles de Gaulle, j'adore évidemment Charles de Gaulle, dernier grand homme politique de France, à mon avis. Vraiment, ouais, bref. Il disait, dans une situation compliquée, tu dois arriver avec des idées simples. Et aujourd'hui, nous devons arriver avec des idées simples qu'un enfant de 7 à 10 ans doit pouvoir comprendre. Et si un enfant de 7 à 10 ans ne peut pas lire la Constitution car elle fait 350 pages, elle est tellement compliquée et qu'elle est inaccessible, si le cadre légal fait 13 000 pages entre le code de procédure, le code des obligations, le code civil, le code pénal, le code, la jurisprudence, etc. Non mais oublie une citation dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais ça n'est pas une citation, c'est un concept juridique. Aujourd'hui, on te dit, voilà 13 000 pages de loi. Il est impossible de les comprendre parce que nul n'est censé ignorer la loi, c'est devenu nul n'a l'autorisation de connaître la loi. Mais par contre, tu ne la connaîtras pas. Oui, mais je vais quand même te punir si tu l'enfreins. Donc, ça n'est plus du tout quelque chose au service des peuples. Non, c'est une épée de Damoclès pour te faire vivre dans la peur, dans la crainte, dans la discorde. Et de toute façon, tu n'auras jamais la possibilité de la comprendre parce que même les top spécialistes qui ont fait droit pendant 3, 4, 5 ans à l'université, eh bien, ils se spécialisent dans un seul domaine parce que ça, c'est totalement abscon. Et comme l'excès de loi est la plus grande des injustices, parce que ça permet tout et son contraire, les gars. Quand t'as 13 000 pages de code, de procédure, de ceci, de cela, ben, il suffit de payer. C'est l'histoire de O.J. Simpson aux États-Unis. Le gars, il y a des témoins, on sait qu'il a tué. Oui, mais si t'as un super avocat et que tu lui balances 100 millions, eh ben, il fera durer la procédure X années. Le gars, s'il a fait 6 mois de prison derrière les barreaux, c'est le maximum. J'ai pas les chiffres en tête, donc ne prenez pas ça pour de l'argent comptant. Mais en attendant, le gars, il est libéré. Il a tué. Donc, bref, on oublie. Je peux pas rester les bras croisés. Moi, j'ai 60 ans. Mais c'est vrai, je vais certainement de nouveau... Alors, c'est vrai qu'on peut pas faire la patrouille des glaciers quand on a 60 ans ou plus. Ouais, moi, la plupart des gars avec lesquels je fais de la montagne qui ont 40 ans, 45 ans, ah oui, le premier jour, ils peuvent me suivre. Mais ensuite, voilà, c'est plus difficile. Donc, je suis assez en forme pour faire une patrouille des glaciers. Donc, si jamais on peut pas, on se mettra dans la trace et puis on fera le parcours en tant qu'invité, enfin, en tant que touriste. Voilà. Donc, ce que je dis simplement, c'est que moi, je peux pas rester les bras croisés. Mon ami de Paris qui m'appelle, je me souviendrai toute ma vie de ce téléphone, il me hurle dessus au téléphone. Il me dit, mais Pascal, arrête de te cacher dans tes montagnes suisses. Partage. C'est ton devoir. Et vous savez, ça m'a marqué. Et je me suis dit, alors c'est un merveilleux compliment d'une certaine façon. Je l'ai pas vraiment pris comme tel. Je l'ai pris comme un gros coup de pied au derrière. Je devais me bouger, je dois le faire. Et je partais du principe que de toute façon, si je ne le fais pas, et je pense que beaucoup d'êtres humains devraient essayer de comprendre ça, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et c'est ça qu'on veut. quelques héros peuvent aider la situation, comme on le voit aux États-Unis en ce moment, à s'engager pour le peuple, pour redonner sa souveraineté au peuple. Mais aujourd'hui, le peuple doit décider par lui-même de reprendre sa souveraineté. Et encore une fois, je suis désolé d'insister, mais tout est là-dedans. Parce que la feuille de route, elle fait 10 pages, mais elle est soutenue par pas loin de 400 pages d'explications qui disent, ben, pourquoi? Qui te disent, tu es super fort, c'est entre tes mains. Et cette souveraineté que tu as abandonnée, eh bien, tu dois la reconquérir pour retrouver une vie accomplie, une vie dont tu sois fier, pour retrouver ton pouvoir d'achat. Le seul argent bien dépensé est celui qui sort de ton porte-monnaie. C'est tellement évident. Et aujourd'hui, tu donnes entre 70 et 85%, entre 70 et 85% de la valeur de ton travail à des taxes et des impôts qui se justifient de te voler de cette façon pour des raisons de sécurité. Je vais te mettre en sécurité car tu as peur de la maladie. Je vais te mettre en sécurité car tu as peur de l'accident. Je vais te mettre en sécurité parce que tu as peur de ne pas avoir de retraite, etc., etc. Et c'est un mensonge sur toute la ligne. Quand tu te maries, tu invites l'État à gérer le cadre légal et l'État à gérer ta relation avec ton conjoint. C'est une monstruosité, c'est une obscénité. L'État n'a pas à t'imposer les règles. Et c'est pour ça que en Europe, on est à quoi, 1,4, je crois, de natalité, non, peut-être 1,6, je me souviens plus. Ça tourne entre ces chiffres. Aux États-Unis, on est à 1,6. Donc, c'est dramatique. Au Japon, je crois qu'ils sont en dessous de 1. On est à 0,8 ou un truc comme ça. C'est une monstruosité. Mais tant que tu redonnes pas leur pouvoir d'achat aux citoyens, que tu leur redonnes pas la valeur de leur travail, on parle de pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Non, c'est la valeur de ton travail. Et il se trouve que la valeur de ton travail s'exprime en argent. Bon, ben, voilà. Mais cet argent, l'État n'a pas le droit de te le confisquer. On n'a pas le droit de te priver de l'accès à la propriété sous prétexte que on définit nous-mêmes les taux d'intérêt, etc., etc. Non, mais aujourd'hui, tu as le droit de devenir propriétaire, c'est enregistré au registre foncier. Ah oui, mais on va te prendre la valeur générée par ton bien. Donc, tu as le droit à l'entretien. Hein, tu vas faire en sorte que ça continue à produire. Mais on va te prendre l'impôt sur la valeur locative, l'impôt sur ceci, l'impôt sur ça. Donc, en fait, sans compter les intérêts, hein, qui sont définis par un organisme totalement anticonstitutionnel que tu appelles aujourd'hui Banque centrale. La Banque centrale est totalement anticonstitutionnelle. Et il faut que tu le lises. Dans Source de revenus des États, je t'ai fait au moins 7 ou 8 pages sur les banques centrales. Pourquoi? Ben parce que c'est les banques centrales étaient considérées comme anticonstitutionnelles à tel point que le 7e président des États-Unis, après avoir dilité Andrew Jackson, pour ne pas le nommer, quand il a dilité, éliminé, gommé, effacé, viré la banque centrale, ça a donné lieu à une lutte politique, mais super dure. Et il a fait graver comme épitaphe sur sa banque, avec toute la fierté qu'il a eue de rétablir l'équilibre entre la classe moyenne productrice de richesses et le gouvernement créateur d'un service qui est l'argent, un service pour les citoyens, les acteurs économiques. Le président Andrew Jackson a fait graver sur sa pierre tombale « I killed the bank ». Parce qu'il savait que donner à une minorité le pouvoir de créer de l'argent out of the blue, à volonté, nickel, eh ben c'est un nice power to have, of course. Ouais, mais est-ce que ça peut équilibrer une société? Non, ça donne un tel... Enfin, on s'est bien compris. Donc, tu lis le chapitre, s'il te plaît, « Source de revenus des États », et tu comprendras pourquoi dans ma feuille de route pour te redonner ta souveraineté, la première chose que tu fais, c'est couper les flux financiers aux États pendant une période aussi courte que possible, parce que tu veux pas de chaos social. Ton but, ça n'est pas de détruire le capital, de détruire les démocraties, évidemment pas. Tu veux au contraire reconstruire ces démocraties, leur redonner leur force au service des citoyens, que les citoyens aient les outils légaux et constitutionnels d'exercer leur souveraineté. C'est ça que tu veux. Mais c'est Adam Smith, c'est de la destruction constructive. Mais si tu ne fais pas mourir un patient qui est aux soins palliatifs, quelqu'un aux soins palliatifs après accepte de prendre n'importe quel médicament pour se donner quelques jours de sursis, c'est une évidence. Oui, mais in fine, il va mourir. Et dans ce cas de figure, la mort est le plus beau cadeau de la nature, parce que seule la mort permettra la renaissance. Et la seule constante de l'univers, c'est quoi? Ben, c'est le changement. Et nous, aujourd'hui, on est en refus pathologique du changement. Parce qu'il y a des gens qui abusent tellement du système à titre personnel, qui s'octroient une qualité de vie qui est tellement démente que c'est évident qu'ils veulent pas de changement, mais vous rigolez. Donc, c'est pour ça que je reviens au peuple. Le peuple est l'arme. Le peuple est l'outil. Le peuple est le souverain et il doit se réveiller, se mettre en marche. Et je vous garantis que la solution que j'ai pris 4 ans presque à écrire, comme me disait le même journaliste d'ailleurs, il m'a dit, mais Pascal, t'inquiète pas, t'as mis 4 ans, je veux bien, mais t'as écrit 7 livres. Hein. T'as écrit un livre sur l'éducation, un livre sur la santé, un livre sur les démocraties, un livre sur le cadre légal, etc. Bref, voilà, c'est
court. Magnifique,
Pascal. C'est normal, ça a pris 4 ans, mais c'est comme ça.
L'horloge tourne. Pardon. On n'a pas donné le site internet sur lequel on peut trouver le livre. Donc peut-être ça c'est quelque chose de très important à dire. Alors donne-nous ton site internet et puis peut-être aussi t'as une chaîne YouTube qui a beaucoup de succès, peut-être aussi la donner.
Oui, enfin un succès. Oui, c'est très gentil de l'introduire de cette façon. En fait, notre site s'appelle www.4, donc le chiffre 4, OVET24.com. Je répète, www.4OVET24.com. Et la chaîne YouTube est 4OVET24. Et la chaîne Telegram, BitChute, Rumble, Odyssey, Facebook, LinkedIn, etc. Enfin, les 20 plus grands réseaux sociaux. Alors, je publie pas partout en permanence. Mais il y a quand même pas mal de ces réseaux qui sont là. Et je me permets juste de dire que pas mal de mes vidéos, par exemple en Suisse, ont été très fortement censurées, parce qu'évidemment, j'ai une caractéristique, c'est que je fais des erreurs comme tout le monde, mais je ne mens jamais. C'est une décision que j'ai prise il y a presque deux décennies maintenant. Alors évidemment, ça me rend incompatible avec beaucoup d'institutions financières, les gouvernements en général, etc., etc. Mais par contre, ça me rend compatible d'abord avec les bonnes personnes. Donc ça déjà, c'est merveilleux. Mais donc, sur le site, un grand nombre de vidéos ont été censurées. Vous les retrouvez en particulier sur YouTube, ça a été censuré, sur Facebook, etc., etc., même sur Twitter à l'époque. Ils ont même fait des faux comptes à mon nom avec ma tête et tout. Bref, tout ça a été éliminé. Et aujourd'hui, le site 4OVET24.com est un espace de liberté. Vous pouvez vous y inscrire. Vous ne payez rien, c'est gratuit, il n'y a pas de cookies, etc., etc. Et vous avez d'un côté des centaines de vidéos où j'explique ce genre de choses, dont la discussion qu'on a eue aujourd'hui, avec peut-être par sujet plus spécifique. Et d'un côté, vous avez donc les vidéos, de l'autre, vous avez tous les textes. Parce que mon intention n'est évidemment pas de faire de l'argent, je veux rester l'homme le plus pauvre de Suisse, entre guillemets, pour ne pas être attaqué par qui que ce soit, pour ne devoir rien à qui que ce soit. Et vous avez tous les textes, et sous chaque chapitre, exactement comme sur YouTube, vous avez un espace commentaire où vous pouvez en toute liberté vous lâcher si vous pensez que je raconte que des bêtises et me challenger par rapport à tout ça, car ce sera, dit très égoïstement, le moteur de mon développement personnel. C'est une évidence. Donc, j'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin que vous vous familiarisiez avec la simplicité de mon message. Tout y est. N'hésitez pas. Et puis, bien, bon, vous excuserez, il y a un pop-up qui, quand vous allez sur le site 8024.com, qui vous propose un lien sur Amazon, parce que j'ai été obligé de faire ça sur Amazon, pour une raison simple, c'est que moi, j'écris en français, mais ma langue maternelle, à 5 ans, je parlais pas français du tout, je parlais que l'anglais. Donc, je l'ai écrit en français. Ça, c'est ma version française et j'ai ma version anglaise, évidemment. Et je pense même que ma version anglaise est presque peut-être un tout petit peu plus percutante parce que c'est de l'anglais et c'est un peu plus punchy, quoi. C'est un peu, voilà. Donc, c'est là que vous retrouverez tout ça. Voilà.
Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Pascal Borel. Est-ce que Amaël ou Pascal, vous avez encore une question, une remarque, un désir?
Non, un grand merci parce qu'il y a tellement de sujets qui ont été abordés et approfondis en une heure.
Donc, ouais. C'est gentil.
Hein. Et je peux vous dire que c'est que la surface. Hein. J'ai lu son livre, enfin je l'ai pas tout complètement en détail, mais il y a énormément de choses, peut-être aussi sur la santé, des choses passionnantes à apprendre sur la santé, hein, parce que c'est aussi un sujet. Peut-être qu'on t'invitera encore une fois spécifiquement pour en parler.
Pour la santé.
Mais voilà.
C'est mon plus gros chapitre.
C'est le plus gros chapitre, et là, je pense que les auditeurs ont vraiment quelque chose d'important à apprendre. Hein. On a toujours des choses à apprendre.
Ce qui serait merveilleux, c'est de pouvoir leur donner l'outil qu'est le jeûne intermittent et le régime cétogène. Parce que c'est deux clés fondamentales de notre bien-être. Et c'est les deux choses qui induisent un status. Quand on mange 3 fois par jour et qu'on mange du sucre 3 fois par jour, on induit un status inflammatoire qui est monstrueux. Et toute la plupart des maladies neurodégénératives ou autres ont comme origine un statut inflammatoire élevé pendant des années, voire des décennies. Et si on peut corriger ça, on corrige 80% de la cause des pathologies actuelles pour une raison qui est toute simple. C'est que votre biologie n'est pas programmée pour se dégrader. Non, il n'y a pas de maladie, il n'y a que les symptômes de ce que vous faites faux. Et c'est très, très important. Alors, les gens vont me dire, oui, mais Pascal, tu es un gourou. Maintenant, ils m'appellent le moine guerrier. Tiens, c'est assez amusant. Attendez, bougez pas, j'ai oublié d'éteindre ceci. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Et non, je dis simplement que c'est vrai que redonner aux gens la possibilité de gérer leur santé, mais selon les principes qui nous ont été légués par l'évolution de l'espèce. Encore une fois, la maladie est quelque chose qui a été inventé par Hippocrate, considéré comme le premier médecin de l'histoire, mais c'est un concept. Il n'y a pas de maladie. Vous avez les symptômes de ce que vous faites faux. Et si on peut amener ça aux gens, et puis qu'ils essayent des recettes très simples, des choses très simples à mettre en place. Et puis, on leur dit pas que ça va marcher absolument, on leur demande même pas de nous croire, on leur dit essayez. Et si vous n'aimez pas, revenez dans un mois à ce qui semble vous convenir. Mais essayez, faites-le pour vous. Vous ne le faites pas pour Radio Libre, vous ne le faites pas pour Charlie Pache, pour Amaël O'Brien, pour Pascal Borel. Non! Vous le faites pour vous. C'est quelque chose, c'est un cadeau que vous vous offrez. Et si on peut faire quelque chose comme ça, mon Dieu, on va rendre service à des milliers de personnes. Mmh. C'est
sûr. Un grand merci, Pascal. Aussi, peut-être 3 mots-clés qui m'avaient frappé quand on avait préparé l'émission. C'est ce qui est nécessaire à continuer. C'est de l'intelligence, de l'énergie, du courage. Avec tes actions, tu nous montres le chemin. Et ben, je nous souhaite aussi à nous tous et aux auditeurs beaucoup d'intelligence, d'énergie et de courage. Merci beaucoup, Amaël. Merci beaucoup, Pascal et Pascal.
Merci de m'avoir reçu.
Merci.
Merci à vous.
Radiolibre.ch, une radio toute neuve, rien que pour vous et sans censure.